Et tout de suite, sur RTL, place à Marie Drucker et à l'invité du journal inattendu, Marie qui a quitté la rue Bayard aujourd'hui. RTL, il est midi et demi.
Le journal inattendu sur RTL.
12h30, 13h30.
Marie Drucker, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Et oui, bonjour à tous, merci d'écouter RTL, bienvenue dans ce journal inattendu un peu particulier aujourd'hui. Nous sommes en direct d'Aix-en-Provence à l'occasion de la 16e édition des Rencontres économiques. Rendez-vous prestigieux, passionnant, grand public, 200 intervenants venus du monde entier, 4000 visiteurs et près de 10 fois plus qui suivent les sessions sur Internet. Nous sommes au cœur du rendez-vous qui se tient jusqu'à demain soir. Nous sommes en plein air, il fait un temps magnifique dans cette belle ville d'Aix-en-Provence, dans la vieille ville. Nous sommes devant l'Institut d'études politiques. C'est un forum des idées, on en a bien besoin, qui s'achèvera demain par une déclaration finale avec des recommandations signées des 30 membres du Cercle des économistes. Je pars sous votre contrôle, Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, bien sûr, président du Cercle des économistes. Vous êtes le patron, finalement, de ce grand rendez-vous. De quoi s'agit-il précisément ? Expliquez un peu à ceux qui nous écoutent sur RTL.
Il y a en gros 30 sessions, une trentaine de sessions, qui regroupent, vous l'avez dit, 220 personnes, mais qui viennent du monde entier. Donc, et en réalité, nous avons eu le nez creux, puisque il y a près d'un an, nous avons décidé de nous interroger sur quel était le rôle d'un pays ou d'une nation au moment où on voit réapparaître des phénomènes assez lourds. Mmh. Donc le Brexit, sur ce plan-là, est une illustration parfaite de ce qu'on souhaitait mettre en exergue. Et notre déclaration, puisque vous l'avez évoqué, c'est ça quand même l'objectif, va essayer de définir ce qu'on appelle les souverainetés aujourd'hui, souverainetés du monde, quels sont les sujets qui sont vraiment, on l'a vu à propos de la COP21, quelle est la souveraineté européenne, les problèmes de sécurité, les problèmes de frontières, les problèmes de, j'allais dire peut-être d'une partie des problèmes économiques, et puis quelle est la souveraineté en France. Souveraineté, ça veut dire responsabilité, ça veut dire qu'on s'engage réellement, et je ne vous cache pas que dans les 6 propositions que nous faisons sur la France, elles sont directement destinées aux vaillants candidats qui vont se présenter dans un peu moins d'un an à l'élection présidentielle.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
Voilà, donc, et j'espère qu'ils vont s'en inspirer.
Alors vous avez vu aussi, ça j'ai sous les yeux la parole aux étudiants, voilà, c'est résumé, ils ont fait un petit livre rouge, les étudiants qui participent tout le week-end à ce grand rendez-vous. Et eux aussi ont fait des propositions, suppression du cumul et du renouvellement des mandats, sur la lutte contre les inégalités, la réduction des dépenses publiques de 5% à horizon 2025, etc. Est-ce que vous vous inspirez aussi des propositions des futurs chefs d'entreprise, penseurs, chercheurs, sociétés civiles de demain ?
Bien sûr, en réalité, c'est la nouveauté de cette année, c'est que tous ces jeunes filles, jeunes gens en rouge, avec qui n'a aucune signification politique, d'aucune sorte.
Mais vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on pense toujours,
voilà. Oui, on pense toujours à ça.
Il y a une signification.
Mais simplement, c'est lié. Au fond, on a intégré tout au long de l'année et 5 forums qu'on a fait un peu partout en France et le concours qui est un concours qui permet de recruter 100 étudiants que nous invitons ici, qui sont tous formidables, et c'est à partir de leurs idées, de leurs positions, de leurs copies, de tout ce qu'on a pu rassembler. On a même fait un sondage sur, par exemple, sur la confiance qu'on peut avoir d'un rebond de l'économie française. Ils sont extraordinairement optimistes, ils sont très, enfin si je devais résumer, très sensibles à l'idée que on peut rebondir, très sensibles à l'idée que l'intégration doit se faire de manière beaucoup plus vigoureuse, et la lutte contre les inégalités. Et dernier sujet, qu'il faut remettre à plat le modèle européen, parce qu'il est aujourd'hui un peu essoufflé.
Voilà pour ces grandes lignes. Merci Jean-Hervé Lorenzi. L'idée de ce journal inattendu, alors, vous faire découvrir quelques grands patrons qui dirigent des entreprises au cœur de l'actualité, en prise directe avec nos préoccupations quotidiennes et citoyennes. Ainsi, Patrick Pouyanné, le président de Total, est avec nous. Déjà, il est installé dans ce studio à ciel ouvert de RTL. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Henri de Castres, le président, bientôt sortant du groupe AXA, et Bertin Naoum, président de MedTech. C'est une entreprise qui conçoit et commercialise une technologie médicale de pointe. Vous verrez un robot qui assiste les médecins en chirurgie, qui est assez révolutionnaire. Il vous expliquera pourquoi. Face à ses patrons, pour les interroger, donc des étudiants, eux qui seront peut-être à leur tour les chefs d'entreprise de demain. Voilà pour le programme. Mais avant cela, sur RTL, bien sûr, le journal, Philippe Robuchon, en direct de la rue Bayard à Paris. Bonjour Philippe.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité de ce samedi, Philippe.
Eh bien, 4 titres: départ en vacances, Tour de France, Euro de football et Conseil national des Républicains. Pékin. Dans un instant, on fera le point sur les premiers bouchons de l'été. On ira au Mont-Saint-Michel pour le départ en direct de la Grande Boucle. On reviendra sur la conférence de presse de Didier Deschamps ce matin à la veille de France-Islande. Et puis en politique, on verra que plusieurs cadres du parti Les Républicains, dont Alain Juppé, ne sont pas prêts à signer le projet présidentiel conçu par Nicolas Sarkozy. La tendance météo de ce samedi, c'est plus ensoleillé mais plus frais au nord, toujours aussi beau et aussi chaud sur la moitié sud, comme à Aix. Prévision détaillée dans 7 minutes avec Patricia Charbonnier.
Le journal inattendu, RTL.
Et on commence, Philippe, par les premiers départs sur les routes.
Oui, même si les élèves ont cours jusqu'à mardi, bon nombre de vacanciers ont pris dès ce matin le chemin des plages, de la montagne, de la campagne, journée classée orange au plan national. Charles Dodon, bonjour, comment ça se passe?
Eh bien, ça se passe plutôt mal en région Rhône-Alpes, avec des ralentissements en vallée du Rhône sur l'A7, avec du sud de Lyon jusqu'à Orange. Il faut compter près de 3 heures, hein, c'est 1h30 de plus qu'en temps normal. Ça coince aussi dans la traversée de Montpellier sur l'A9, dans les deux sens. C'est bien chargé en direction des plages de l'Atlantique et un point noir, l'A10, la traversée de Tours, une bonne quarantaine de minutes de perdu dans des ralentissements. Ça freine aussi à l'arrivée sur Bordeaux, un mot de l'Île-de-France, principale perturbation sur l'A6 entre Fresnes et Évry.
Merci Charles, même si la météo n'est pas estivale partout, loin de là, un départ en vacances, c'est toujours bon pour le moral. Écoutez ces touristes que Nicolas Bobby a rencontrés ce matin à Quiberon dans le Morbihan. Cheveux au vent, il s'apprêtait à prendre le bateau pour Belle-Île-en-Mer.
C'est l'excitation. On voit les plages, on voit les collines. Le début d'une petite aventure sympa, loin de tout. C'est la première fois que la petite va à la mer.
Même si j'ai un peu le mal de mer, ça va quoi.
Les conversations sont pas du tout centrées sur le travail. Sur les vacances, l'organisation.
Bah on va essayer de se baigner, si c'est pas trop froid. On va faire la fête, on va bien manger, on va un peu boire, avec modération.
Voilà, des vacanciers heureux et la corne de brume, c'était ce matin à, juste avant d'embarquer pour Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan.
RTL, Tour de France 2016.
3535 km, 21 étapes, 198 coureurs au départ. Je parle bien sûr du Tour de France, 103e édition, Philippe.
Oui, c'est parti. Avant l'arrivée sur les Champs-Élysées le 24 juillet, les coureurs vont donner des centaines de milliers de coups de pédale. Ils vont grimper, dévaler, s'échapper. Bref, ils vont souffrir. Et cette année encore, les favoris ont pour nom Froome, Quintana, Contador, Nibali, en espérant évidemment un petit Français comme Pidon ou Bardet. Bonjour Ludovic van de Kerckhoff.
Bonjour à tous.
Vous êtes à quelques encablures, je le disais, du Mont-Saint-Michel pour RTL. Cadre prestigieux et un départ imminent.
Oui, départ. On ne peut pas être au plus près. On est au pied du Mont-Saint-Michel, effectivement, pour cette première étape, 188 km vers Sainte-Marie-du-Mont, Utah Beach. Départ fictif donné à 12h20. Une première partie du défilé, puis c'est dans ce moment même la cérémonie officielle de départ, la Marseillaise, le cordon, le ruban coupé. Et on attend le passage de la patrouille de France au-dessus du peloton. C'est imminent dans quelques secondes. Côté des officiels, 8 coureurs choisis pour figurer au premier rang sous la photo des 3 vainqueurs du Tour présents sur cette grande boucle. Froome, Contador, Nibali, le champion de France, Arthur Vichot, le champion du monde, Peter Sagan, et puis les 3 coureurs originaires du département de la Manche, Amaël Moinard, Anthony Delaplace et Michael Chérel. On attend donc les avions, puis la deuxième partie du défilé, un peu plus de 4 km encore pour rejoindre le lieu du départ réel. C'est à 12h50. Le soleil, quelques nuages quand même au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel, décor majestueux, vous l'avez dit, pour lancer cette 103e édition. Et ensuite, direction Utah Beach, célèbre plage du débarquement pour une première étape promise au sprinter. On se retrouve à 13h pour un prochain point RTL Tour de France.
À tout à l'heure, Ludovic van de Kerckhoff.
RTL Euro 2016. Football, décidément, l'Euro 2016 nous réserve bien des surprises.
Oh que oui, après l'élimination des Anglais par l'Islande, les Gallois ont fait sensation hier soir en renvoyant à la maison les Diables Rouges. Les Belges faisaient pourtant partie des favoris. Victoire 3-1 des Gallois. Les Gallois qui affronteront les Portugais mercredi à Lyon lors de la première demi-finale. L'autre demi-finale jeudi prochain opposera le vainqueur du match Allemagne-Italie qui se joue ce soir à Bordeaux à celui du match France-Islande de demain soir. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Vous avez assisté, vous, ce matin à la conférence de presse des Bleus, notamment de Didier Deschamps.
Oui, horaire bien inhabituel pour cette conférence de presse, 11h ce matin. Hugo Loris et Didier Deschamps sont donc venus de Clairefontaine pour y repartir illico, puisque c'est dans leur camp de base qu'ils s'entraîneront cet après-midi pour ne pas abîmer la pelouse du Stade de France. Plus de 130 km aller-retour, donc avalé en un éclair par le capitaine des Bleus et son sélectionneur.
Oh, je ne vais pas vous faire de cachotterie. Aujourd'hui, ça a été très écourté, notre aller-retour, puisque la gendarmerie nous a mis à disposition en hélicoptère, donc on n'a pas passé beaucoup de temps sur la route. Il n'y a pas eu de fatigue ce matin, il n'y en aura pas pour rentrer non plus.
Hugo Lloris va donc avoir tout le loisir de préparer ce nouveau match piège. Après le Pays de Galles hier, l'Islande voudra évidemment créer une nouvelle sensation demain.
Il y a eu des surprises depuis le début de la compétition et il ne suffit pas d'être une grande nation, il ne suffit pas de jouer un beau football pour pouvoir être dans le dernier carré. Et si la différence doit se faire, ça se fait au mental. Et encore une fois, demain, il faudra passer par là pour obtenir la qualification.
Les Bleus, toujours très secrets sur la composition et le schéma de jeu envisagé pour demain, preuve que Didier Deschamps prépare ce rendez-vous comme face à un très grand pays de football.
Philippe Sanfourche pour RTL.
En politique, l'événement du week-end, c'est le Conseil national du parti Les Républicains.
Oui, dès ce matin, il a commencé à la Mutualité à Paris. Les cadres doivent se prononcer sur le texte qui va servir de projet présidentiel au parti. Le problème, Olivier Bost, c'est que ce texte qui est le fruit de plusieurs conventions, eh bien, les principaux candidats à la primaire n'en veulent pas et ils l'ont dit tout à l'heure à Nicolas Sarkozy.
Oui, à son arrivée, Alain Juppé a prévenu, il ne restera pas jusqu'au bout, il ne votera pas pour le projet de Nicolas Sarkozy.
Je ne participerai pas au vote parce que je pense que cela entretient une confusion regrettable entre Nicolas Sarkozy, président du parti, et Nicolas Sarkozy, candidat en campagne pour les primaires.
Et à la tribune, un autre candidat, Hervé Mariton, attaque les propositions de Nicolas Sarkozy qui lui répond sur le même ton.
Nous ne voulons pas, je ne veux pas de demi-mesure. Excuse-moi Nicolas, mais tu connais ma franchise, peut-être parfois mon insolence, mais je pense que les mesures que tu proposes ne sont pas suffisantes.
Moi je te remercie parce que j'aime le débat. Je rappelle que pour gagner au deuxième tour, il faut 21 millions de Français. Donc il faut ouvrir notre esprit.
Alain Juppé n'a pas entendu le conseil. Il a passé la matinée, ostensiblement, à la terrasse du café, juste en face.
Un reportage Olivier Bost pour RTL. À l'étranger, l'attentat au Bangladesh a fait au moins 20 morts la nuit dernière. Des hommes armés ont fait irruption dans un restaurant à Dhaka. Ils ont tué à l'arme blanche, un par un, des civils qui sont pour la plupart des étrangers. Selon l'armée, il y aurait de nombreuses victimes italiennes ou japonaises. Pas de Français signalés pour l'instant. L'État islamique a revendiqué cet attentat. Le temps, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
C'est un petit peu plus ensoleillé sur le nord, mais bien trop frais pour la saison.
Oui, une petite amélioration quand même qui se dessine au nord de la Loire, avec quelques éclaircies, toujours malheureusement un risque d'averse et de la fraîcheur. Simplement 17 degrés cet après-midi à Cherbourg, 18 au Havre, 20 degrés à Nancy comme à La Rochelle, 21 à Paris et Strasbourg. Dans le sud, beaucoup de nuages entre les Pyrénées, le Massif central et même près des frontières de l'Est avec cet après-midi des averses, du soleil près de la Méditerranée, mais avec des vents soutenus et des températures estivales dans le sud jusqu'à 33 degrés cet après-midi à Nîmes, 32 à Marseille et 26 degrés à Nice.
Merci Patricia. Marie, c'est à vous à Aix.
Et 40 degrés à Aix, je pense. En plein soleil. Merci Patricia. Je vous embrasse. Merci Philippe. On se retrouve à 13h pour
à
le rappel des titres. À tout de suite. Dans un instant, nous allons entrer dans le vif du sujet depuis Aix-en-Provence où se tiennent donc tout le week-end les 16e rencontres économiques. On accueillera notre premier invité, le patron du groupe pétrolier Total, Patrick Pouyanné. À tout de suite sur RTL. Oui, journal inattendu, événement sur RTL en direct d'Aix-en-Provence avec des centaines d'intervenants prestigieux venus du monde entier parler d'avenir, d'économie avec des chefs d'entreprise, des institutionnels, des intellectuels, des artistes aussi. Jusqu'à 13h30 sur RTL vont se succéder trois grands chefs d'entreprise, face à eux à chaque fois deux étudiants qui vont les soumettre à la question. Vous êtes d'attaque, Patrick Pouyanné?
Oui, bien sûr.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général du groupe Total. Vous avez succédé à Christophe de Margerie, mort accidentellement en octobre 2014. Cette succession s'est faite en plusieurs étapes. Mais vous étiez chez Elf depuis 1997. Le groupe a été absorbé par Total en 2000. Vous connaissez bien la maison. Pour autant, cela a-t-il été simple de succéder à Christophe de Margerie?
C'est jamais simple parce que être patron d'un groupe comme Total, c'est très différent d'être le numéro 2 ou le numéro 3 quand vous devenez numéro 1. Il y a une erreur de croire qu'on est normal. On n'est plus normal, notamment dans le regard des gens. Et en fait, tout d'un coup, vous devenez le leader d'une entreprise de 100 000 personnes qui attendent votre part de leur donner un cap. En plus, dans des conditions pour nous qui étaient exceptionnelles, puisqu'au même moment, en plus, le prix du brut s'est effondré. Donc on a dû prendre des mesures économiques, je dirais, relativement sévères, très vite. Et donc le rôle n'est plus le même. Le rôle de patron d'une entreprise comme Total, qui est la plus grande capitalisation française, c'est aussi un rôle de la voix de l'entreprise, de représentation de l'entreprise, des mentions médiatiques, vous voyez. Je ne vous rencontrais pas avant. Maintenant, je dois porter cette voix, ce qui est un élément important, parce que nous sommes un acteur économique, mais nous sommes aussi un acteur social. Et puis, parce qu'en France, Je me suis aussi rendu compte rapidement que quand j'intervenais, mes propos allaient être pris. Donc il y a, et puis après, le patron de Total, c'est celui qui va à la rencontre des responsables des grands pays producteurs à travers le monde et qui là aussi représente l'entreprise et fait en sorte que le travail de l'ensemble des équipes puisse aboutir.
Mais pour être bien clair pour ceux qui nous écoutent sur RTL, le carburant fait partie de notre quotidien. La crise qui a duré plusieurs semaines, certes, pour protester contre la loi travail, a mis une nouvelle fois en relief notre dépendance au pétrole. Quel est votre métier ?
Ah, moi, j'ai plusieurs métiers chez Total. Mmh. Nous, on est d'abord, on fait du pétrole et du gaz. Mais dans notre, en fait, ce que les clients connaissent, c'est effectivement la station-service de Total.
C'est ça.
Mais notre métier, en fait, l'essentiel de notre activité, c'est que l'on explore dans le monde entier, on produit du pétrole, puis après, on le transporte à travers le monde, on le raffine. À partir du pétrole, on peut faire des plastiques, et puis on va le distribuer dans des stations-service, on fait du fuel. Donc ça, c'est tout le pétrole. Et je fais à peu près la même chose sur le gaz, qui est moins connu, puisqu'on est à peu près 50% pétrole, 50% gaz. Ce que connaissent les consommateurs, effectivement, c'est nos réseaux, nos stations. Et parfois, ils peuvent juger de l'action du groupe à travers la station fonctionne ou fonctionne pas, ou le prix de l'essence, vous savez, qui est toujours très sensible. Et d'ailleurs, on a pris une initiative qui s'appelle Total Access, où on a drainé de plus de clients vers nous avec des prix compétitifs. Donc, il y a une dimension. C'est pas simplement, je suis pas simplement le pompiste de France. Quoi.
Total pourrait remettre en cause des investissements en France après les grèves qui ont paralysé vos raffineries françaises. Des investissements notamment dans le plastique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le confirmer et être un peu plus précis ?
Je veux dire ce qui se passe. On a en France 5 raffineries. On a des programmes d'investissement assez lourds. On avait vécu un épisode qui est quand même un épisode qu'on ne peut pas ignorer. Je peux pas passer par perte et profit, je dirais, le fait que pendant 4 semaines, nos employés ont décidé de faire grève pour un motif totalement étranger à l'entreprise. Il n'y a jamais eu de revendication. Le droit de grève est constitutionnel, je le respecte simplement. Pendant 4 semaines, ces entreprises et nos outils industriels ont été arrêtés, pris en otage. Je le regrette, on a des investissements, mais nous, lorsqu'on alloue, décide nos investissements, je dois comparer. Est-ce que je le fais sur un site en France ? Est-ce que je le fais sur un site en Belgique ? Ou est-ce... Parce que j'ai des clients. Et mes clients, de même que les clients de mes stations-service veulent de l'essence, j'ai des clients, par exemple dans le domaine des plastiques, ils veulent qu'on leur fournisse ces produits. Et leur dire, bah, écoutez, mes équipes ont décidé de s'arrêter pendant 4 semaines pour un motif qui n'est pas celui d'entreprise, c'est compliqué. Donc, je ne dis pas que je ne veux pas faire des investissements, je dis simplement que notre devoir à nous, c'est de réfléchir où est-ce qu'on fait les investissements, où est-ce qu'ils seront les plus, je dirais, font le plus de sens pour l'ensemble de notre entreprise.
Patrick.
Donc il y a une compétition entre la France et d'autres sites européens ou mondiaux.
On va parler de l'Europe dans un instant, évidemment, avec vous et avec les étudiants qui vont vous interroger. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total, sur RTL, avec vous et en direct des 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
12h30, 13h30.
Marie Drucker, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Avec Patrick Pouyanné, qui est le premier invité, président directeur général de Total, qui est le premier invité de cette émission spéciale du journal inattendu sur RTL, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On a balayé quelques questions générales, j'allais dire, Patrick Pouyanné, juste avant la pause. Maintenant, pour vous interroger, deux étudiants. On accueille Ella Hamdouni, 27 ans, en troisième année de thèse de chimie à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et Florian Grosset, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant à l'école d'économie de Paris. Vous passez en deuxième année de master. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Honneur, honneur aux dames. Je vous en prie, Ella Hamdouni, vous pouvez interroger. Patrick Pouyanné, il est à vous.
Bonjour, monsieur Pouyanné.
Bonjour.
Donc, vous avez déclaré dans l'une de vos interviews que pour vous, l'économie reposait sur les entreprises et que l'État était là pour fixer les cadres simplement. Donc, je voulais savoir ce qu'était pour vous le rôle précis de l'État dans le secteur économique.
Patrick Pouyanné.
Voilà, c'est un beau débat. J'ai répondu ce matin pendant les rencontres économiques que pour moi, l'État n'avait pas vocation à être actionnaire dans le secteur concurrentiel, mais c'est plutôt un régulateur, l'État, du secteur économique. Je pense que, franchement, Total, vous voyez, Total est un symbole de la France, mais je suis une entreprise complètement privée. Et pour autant, j'ai des relations avec l'État, bien évidemment. Mais l'État est, à mes yeux, d'abord, fondamentalement, doit organiser le cadre économique. Les problèmes de concurrence, les problèmes de sécurité pour les consommateurs. Est-ce que l'État doit être actionnaire ? À mon avis, non, notamment dans les entreprises qui sont dans le secteur concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise a besoin de vision à moyen et long terme. Ce que l'État n'est pas toujours capable de faire parce que son horizon, c'est souvent celui de l'élection presque suivante.
Donc plus d'État, moins d'État, moins d'État.
Je suis plutôt sur le mode un État, moins d'État, je pense que, notamment pour nous, moins d'État, mais un État qui agit sur, qui appuie et qui a entre ses mains un certain nombre d'outils de régulation. On a besoin de régulation, il ne faut pas se tromper dans mon... Je pense que capitalisme, libéralisme, s'il y a aujourd'hui un débat qu'on doit avoir, c'est trouver les bons modes de régulation. Ce n'est pas de l'ultralibéralisme, au contraire. Les électeurs, d'ailleurs, envoient des signaux dans plusieurs pays dans ce sens-là. Mais dans ce cadre-là, il faut une vraie réflexion pour que l'État fixe les cadres et régule l'économie comme il le doit.
Florian Grosset, c'est à vous.
Bonjour Monsieur Pouyanné. Donc vous dirigez un groupe dont la richesse est supérieure à celle de plusieurs États. Comment voyez-vous et surtout comment gérez-vous ce pouvoir immense qui vous est confié ?
Voilà, il faut relativiser. Vous savez, à la fin, c'est 100 000 hommes et femmes qui travaillent. La somme de ce groupe est effectivement maintenant un des plus grands groupes mondiaux. Nous sommes 4e pétrolier mondial. Et pour autant, on agit beaucoup avec l'État. Donc on a une relation, puisque dans le pétrole et dans le gaz, en fait, on développe les ressources naturelles d'un certain nombre d'États producteurs, au Qatar, en Angola, au Nigeria. Donc on est dans cette relation, mais il faut pas d'arrogance. Et au contraire, je crois même que ce qu'on cherche à faire dans notre groupe, c'est à la fois... Certes, on est un groupe mondial, on a la capacité, ce qui nous permet de résister par exemple à un prix du pétrole qui baisse de $100 à $50, parce qu'on a des capacités financières importantes, mais en même temps, on cherche au contraire à être très ancré localement et à travailler avec les divers pays producteurs dans lesquels nous sommes.
Et là, Amdouni.
Oui, alors ma deuxième question serait par rapport au changement politique dans le monde en général et plus précisément donc là par rapport au Brexit. Je voulais savoir si pour un groupe multinational comme le vôtre, il y aurait des changements de stratégie par rapport à cela.
Alors voilà, question, est-ce que vous changez de stratégie en fonction des changements politiques ?
Non, si je faisais ça, ça c'est de la tactique. Ça. La différence entre la stratégie et la tactique, stratégie c'est d'avoir un cap. Ce qui est important dans l'énergie, parce que j'investis dans des projets qui vont durer 20, 25 ans. Alors en même temps, bon, le Brexit, pour être honnête, pour nous qui sommes sur des marchés, le pétrole c'est un marché mondial ou le gaz, donc on n'a pas d'impact direct, même si on a des activités importantes en mer du Nord, si ce n'est presque qu'elles sont favorables, puisque nos coûts en livres vont baisser. Donc en fait, quelque part, ce n'est pas pour autant que je suis favorable. J'aurais voté pour, dans ce point, s'en faut. Par contre, il y a des impacts du Brexit à un niveau plus macroéconomique, notamment sur la croissance européenne. Et ça, c'est dommageable, parce qu'on rentre dans une période d'incertitude. Il y a beaucoup d'instabilité en ce moment sur la planète. Daesh, j'entendais aux informations l'attentat au Bangladesh, les problèmes de sécurité qui sont majeurs. L'Ukraine, des crises financières, la Grèce, on rajoute le Brexit, ce n'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut arriver, c'est à améliorer la confiance. Les investisseurs ont besoin de confiance, les consommateurs ont besoin de confiance. Et aujourd'hui, on rajoute un élément d'incertitude qui va peser sur la croissance européenne, donc c'est pas bon.
Oui, donc ces inquiétudes génèrent aussi l'inquiétude des chefs d'entreprise. Est-ce que vous envisagez chez Total des restructurations ?
Ah non, non, il n'y a pas d'impact immédiat du Brexit. Non, je suis d'ailleurs, malgré, nous avons, on a même, le prix du brut a beaucoup baissé, mais on a plutôt pris une attitude consistant à... On recrute moins en ce moment, parce qu'il faut qu'on on doit gérer nos dépenses, mais par contre, on n'est pas rentré dans des plans de licenciement, contrairement à nos grands concurrents anglo-saxons. Pourquoi ? Parce que le prix du pétrole, il monte, il descend. Non, ce ne sera pas le cas. C'est pas comme ça qu'on veut piloter l'entreprise, parce qu'il remontera demain et j'aurai besoin de l'ensemble des équipes. Et puis parce qu'il faut former des gens, c'est long. Alors, il y a peut-être une tradition française derrière tout cela, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne soit pas discipliné dans la gestion de nos dépenses.
Dernière question subsidiaire pour Florian Grosset, qui s'inquiète beaucoup de votre vie privée. Patrick Pouyanné.
Voilà, en fait, j'ai lu que vous travaillez, il me semble, de 7h30 à 21h tous les jours. Et du coup, je me demandais comment arrivez-vous à concilier votre métier, celui de dirigeant d'une grande entreprise française, et votre vie familiale, si du moins c'est possible.
Patrick Pouyanné.
Bon, écoutez, mon épouse doit être par là. Alors, je ne veux pas qu'elle entende la réponse. la vérité, c'est que ça fait plusieurs années. Non, mais vous savez, il est clair quand vous acceptez de prendre le poste de patron de Total, c'est à la fois un honneur, mais... Vous l'acceptez, il y a des contraintes, je ne m'appartiens pas totalement, mais en fait j'essaye le week-end d'être avec mes enfants autant que je peux. C'est un exercice qui est sans doute aussi pour la famille d'ailleurs, qui vous projette. Il y a des conséquences, c'est pas neutre, mais bon, je vis un métier passionnant. Vous savez, être président, directeur général de Total, c'est un métier passionnant et donc... J'y vois personnellement plus d'avantages qu'inconvénients. Il faudra demander à ma famille si elle pense la même chose.
Eh bien justement, on va... merci beaucoup Patrick Pouyanné d'avoir été avec nous sur RTL dans ce journal inattendu. Merci aux étudiants. On va accueillir Henri de Castres dans un instant et puis deux autres étudiants. Merci Patrick Pouyanné, à tout de suite. Vous écoutez RTL, il est 13h02 pile. Le rappel des titres avec Philippe Robuchon-Rubaillard.
Oui Marie, on va tout de suite faire un nouveau point route avec Charles Dodon. Beaucoup de monde depuis ce matin en direction des plages.
Et sans surprise, l'autoroute A7, l'un des axes les plus empruntés actuellement avec des bouchons nombreux en vallée du Rhône en direction de la Méditerranée, près d'une heure et demie de perdu dans ces difficultés entre Lyon et Orange. Sur la 9, la traversée de Montpellier se fait encore au ralenti. Beaucoup de monde aussi sur l'A10, l'axe Paris-Bordeaux en direction des plages de l'Atlantique et des ralentissements qui persistent au sud de Tours et à l'arrivée sur Bordeaux. Coup de frein aussi à Bordeaux au début de la 64 en direction du Pays Basque. Et puis un mot de l'Île-de-France où les départs restent nombreux en ce début d'après-midi sur la 6, ça freine entre Vissous et Évry.
Merci Charles. Du vent, un mélange de soleil et de nuages, bref, c'est sous un ciel typiquement normand que le départ du Tour de France a été donné il y a un gros quart d'heure au pied du Mont-Saint-Michel. Premier coup de pédale en direct, Ludovic Van de Kerckhoff.
Effectivement, départ réel donné à 12h51 exactement pour cette première étape longue de 188 km en direction de Utah-Beach, Sainte-Marie-du-Mont, plage du débarquement à 1944, faut-il le rappeler, avec une étape promise de sprinter, on va y revenir, mais le sport retiendra que les trois premiers échappés de ce 103e Tour de France sont australiens, Leif Howard, Tchèque, Yann Bartha et allemand Paul Voss. Le peloton est à 3 minutes, quelques hommes sont intercalés, mais voilà pour la petite histoire de cette première étape du Tour de France. Arrivé donc tout à l'heure après 17h, avec peut-être un maillot jaune français, on en rêve, pour Brian Coquart notamment, 10 ans jour pour jour après la dernière victoire d'un sprinter français dans un sprint massif. Évidemment, il y a également Cavendish, Greipel, Vettel, les Allemands, par exemple, pour le premier maillot jaune de ce Tour de France 2016. Prochain point RTL Tour de France, tout à l'heure à 13h30.
Merci Ludovic. Je rappelle que cette première étape emmène les coureurs jusqu'à Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche et sa célèbre plage d'Utah Beach, plage du débarquement. Football, Allemagne-Italie, c'est l'affiche du jour de l'Euro. Quart de finale somptueux ce soir à Bordeaux entre deux des meilleures nations du monde. Le vainqueur affrontera en demi-finale celui du match France-Islande de demain. Hier, je vous rappelle que le Pays de Galles a éliminé la Belgique 3-1. Les Gallois retrouveront les Portugais mercredi à Lyon. Le Conseil national des Républicains s'est ouvert tout à l'heure à Paris en présence de Nicolas Sarkozy et d'un millier de cadres du parti. D'emblée, Alain Juppé a dit qu'il ne voterait pas pour le projet de Nicolas Sarkozy. Au Bangladesh, 20 morts, bilan de l'attentat terroriste de la nuit dernière à Dhaka, la capitale, attentat contre des ressortissants étrangers dans un restaurant. La plupart des victimes seraient italiennes ou japonaises. L'État islamique a revendiqué. Un record du monde de natation battu ce matin, celui du 100 mètres nage libre féminin, 52 secondes 6 centièmes pour l'Australienne Kate Campbell. C'est un centième de moins que le précédent record. La météo pour cet après-midi, bien Marie, je crois que c'est l'un de vos invités qui va vous la donner.
Mais oui Philippe, parce que c'est une émission certes un peu particulière, mais la coutume veut que l'on fasse que l'invité fasse la météo de 13h. C'est donc Henri de Castres, le président directeur général d'AXA, qui est notre invité maintenant. Mais je vous en prie, c'est à vous de nous dire la météo. C'est une bonne entrée en matière, non, je trouve, pour commencer l'interview. Merci Philippe, à 18h, à tout à l'heure.
Bonjour Marie, merci. Alors la météo, c'est comme l'économie, c'est très important pour les assureurs. Et aujourd'hui, les deux se ressemblent, parce que la météo pour cet après-midi, c'est un temps encore nuageux, instable, avec des averses entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Ailleurs, le temps sera plus calme, des averses plus localisées. On peut espérer de belles éclaircies, tout de même, avec de la fraîcheur cet après-midi. Les températures assez dispersées, de 17 à 33 degrés. 17 à Brest, 19 à Lille, 21 à Paris et Strasbourg, 23 à Bordeaux, 26 à Nice, 32 à Marseille, 33 à Nîmes, 35 sans doute à Aix, à cause de la chaleur intellectuelle qui règne.
On dirait que vous nous racontez une histoire à Henri de Castres. Ça veut dire, pour continuer votre métaphore, ça veut dire que les assureurs racontent des histoires ?
Non, les assureurs ne racontent jamais des histoires. Les assureurs prennent des engagements qui sont parfois des promesses et qu'ils tiennent.
Alors on va faire un lien justement avec l'actualité récente, les intempéries de la fin du mois de mai et du début du mois de juin qui ont touché beaucoup de nos concitoyens. Les assureurs ont chiffré les dégâts à 1 milliard d'euros. Vous êtes le président directeur général du groupe AXA. Est-ce que ce chiffre vous paraît juste ?
Il est encore approximatif, mais il donne un ordre de grandeur. Je crois que le point important à faire au-delà du chiffre, c'est que le changement climatique est une réalité, que ça nous concerne tous et qu'il se caractérise en particulier par la multiplication d'événements de plus en plus soudains, de plus en plus violents, à des périodes de plus en plus inhabituelles.
Alors, pour ceux qui nous écoutent sur RTL, très concrètement, comment ça se passe ? Un, comment évalue-t-on de tels dégâts ? Deux, comment indemnise-t-on les familles qui ont parfois tout perdu et qui ne sont pas forcément bien assurées et qui souvent se rendent compte qu'elles ne sont pas bien assurées quand il y a une catastrophe ?
Alors, l'élément le plus important, c'est le conseil, le service qu'on peut apporter à ceux qui nous font confiance. Et évidemment, il est regrettable que dans certains cas, ça ne commence qu'une fois que l'événement s'est produit, lorsque, comme vous le disiez, les gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas bien couverts. Donc notre travail, il commence au premier contact avec le client pour essayer de lui faire comprendre, de lui faire mesurer ce que sont ses risques et la manière qu'il a non seulement de les couvrir financièrement, mais aussi de les prévenir pratiquement. Mmh. Et c'est une dimension de plus en plus importante du métier. Ensuite, si malheureusement, malgré les mesures de précaution qui peuvent être prises, l'événement se produit, il faut qu'il se retourne très rapidement vers leur agent général, vers leur intermédiaire, quand ça n'est pas un agent général. Et nous avons ensuite des procédures qui sont extrêmement rodées, en particulier en France, parce que malheureusement, les catastrophes sont assez fréquentes.
Ouais,
pour prendre en compte ce que sont les besoins des clients et pour les aider progressivement à remettre les choses en ordre. Ce qui, dans un certain nombre de cas, ne peut pas se faire tout de suite. Et les gens sont toujours étonnés que lorsqu'il y a eu une inondation, tout ne puisse pas revenir à l'état antérieur instantanément, parce que l'eau fait des dégâts qui, en réalité, sont souvent plus considérables que le feu, puisqu'elle abîme tout et qu'il faut des mois pour tout sécher. Mmh. Donc, le meilleur conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est n'attendez pas que la tempête se soit produite, n'attendez pas que l'inondation se soit produite. Allez, dès aujourd'hui, regarder avec des gens qui vous avez confiance ce que vous devez faire pour essayer de minimiser les conséquences de ce que pourrait être un événement catastrophique. Le même conseil, d'ailleurs, vaut, au-delà des individus, pour les collectivités locales.
Un mot sur vous, Henri Decaze, vous êtes président directeur général du groupe AXA, 27 ans chez AXA, dont 17 à sa tête. Vous êtes entré au conseil d'administration de HSBC, vous quittez AXA plus tôt que prévu. Pour autant, qu'allez-vous faire en quittant définitivement AXA? Alors on m'a dit ce matin, eh bien, il est impossible de lui tirer les vers du nez. Si tu y arrives, chapeau, même nous, alors quelqu'un de votre entourage avec qui on a préparé un peu cette émission m'a dit, même nous on n'en sait rien, c'est impossible. Donc je vous le demande, Henri Decaze, qu'allez-vous faire après AXA?
Les choses sont très simples. Un, mon départ n'est pas une vraie surprise. J'avais dit depuis très longtemps qu'on préparerait cette succession soigneusement, qu'un moment viendrait où, après avoir dirigé le groupe pendant une période très longue, parce que je ne crois pas qu'il y ait dans le secteur beaucoup de patrons qui aient eu cette durée de vie, il faudrait passer le relais à la génération suivante, ce qui est fait. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à Aix les représentants de cette génération suivante. La deuxième chose, c'est pour l'instant, ma priorité, c'est de finir cette transition. Elle se termine le 1er septembre. Ensuite, je vais m'occuper de l'Institut Montaigne avec Laurent Bigorgne et ses équipes, qui est un think tank qui fonctionne très bien sur un certain nombre de sujets économiques et sociaux et qui a un certain nombre d'idées et de thèmes à porter dans l'année qui vient dans ce beau pays.
Vous allez apporter vos idées à un candidat à la présidentielle.
Je vous ai dit que l'Institut Montaigne, qui est un think tank, est un endroit dans lequel il y a beaucoup de gens de qualité qui se réunissent, venus d'horizons très divers, et que je trouve qu'essayer d'animer le débat intellectuel, comme le font les rencontres d'Aix et comme essaye de le faire l'Institut Montaigne au quotidien, c'est une contribution qu'on a le droit d'apporter.
Donc vous restez en France?
Après, je n'ai pas l'intention de quitter mon pays, vous savez. J'aime profondément ce pays. Je pense qu'il a besoin de profondément se transformer, mais je dis depuis des années que je préfère les guerres de Vendée aux émigrés de Coblence.
Henri Decaze sur RTL, on se retrouve dans un instant. Deux étudiants donc vont vous interroger puisque nous sommes en direct des 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL,
12h30, 13h30.
Marie Drucker en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Avec notre deuxième invité aujourd'hui sur RTL depuis Aix-en-Provence, depuis ce studio installé sur cette ravissante place de la vieille ville, Henri Decaze, président directeur général du groupe AXA. Pour combien de temps précisément encore?
Encore un tout petit peu plus de 2 mois.
Bon, très bien. L'été?
Enfin non, d'ailleurs, un tout petit peu moins de 2 mois puisqu'on est le 2 juillet.
C'est au tour des étudiants qui nous ont rejoints de vous interroger. Théophile Mégali, bonjour. Vous avez 24 ans. Vous venez de finir un master à l'Université de Paris-Dauphine en industrie des réseaux et économie numérique. Et vous avez un job en alternance. Donc, vous êtes déjà un peu dans le monde de l'entreprise. Et avec vous, Grégoire Rose, 23 ans, dernière année de master à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous avez fait Sciences Po, c'est bien ça, à Paris. Voilà, Théophile, c'est à vous.
Bonjour, Henri Decaze.
Bonjour.
Alors, dans un climat politique assez particulier, notamment au regard du Brexit et de la montée des partis nationalistes et populistes, que répondez-vous à ceux qui trouvent que les élites sont déconnectées des populations?
Henri Decaze.
C'est une critique qui a une certaine pertinence. Une des choses qui me frappe, c'est que les deux leaders anglais qui ont créé tout cela sont deux anciens élèves d'Eton, donc la crème de la crème de l'élite anglaise. Donc Voilà, il faut le constater. Je crois que plus largement, en réalité, nous sommes dans une situation dans laquelle un nouveau monde est en train d'émerger et que les élites, au fond, au bout d'un certain temps, deviennent assez conservatrices et considèrent comme acquis des choses qui, en réalité, si on regarde l'histoire, ne se sont mises en place que petit à petit et elles manquent d'imagination. C'est quand les élites manquent d'imagination que le peuple divorce d'avec elles. Il faut, pour entraîner ses concitoyens, pour entraîner son pays, il faut une vision longue. Il faut être capable d'expliquer comment cette vision va se traduire par un certain nombre de transformations de la société. Et sur ce sujet de l'Europe, qui est un sujet fondamental, parce qu'on est dans un paradoxe complet, l'Europe nous a apporté de la prospérité pendant 60 ans comme nous n'en avions jamais eu aussi longtemps de manière continue et nous la rejetons. C'est parce que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, le sens de la direction a été perdu. Personne n'a porté un discours positif. Tout ce qui venait de Bruxelles était mauvais. Et on n'a pas su expliquer au peuple pourquoi cette réunion d'États, à un moment où un monde nouveau et sans complaisance avec nous allait émerger, était plus nécessaire que jamais. Donc que les élites retrouvent de l'imagination, qu'elles retrouvent un discours sur le futur, qu'elles sachent expliquer ce que doit être la stratégie des pays dont elles viennent. Et là, je pense que la connexion se refera naturellement. Si elles ne le font pas, alors à ce moment-là, oui, comme à chaque période dans l'histoire, le populisme, avec ses solutions de court terme, ses solutions inapplicables, ses solutions qui, derrière, créent une frustration immense et de très grandes désillusions, prendra le pas.
Grégoire Ross, question pour Henri de Castres.
Henri de Castres, vous quittez le géant de l'assurance français, numéro 2 mondial du secteur. On vous prête, on murmure que vous pourriez traverser la Manche pour rejoindre un nouveau géant, mais dans un secteur différent, mais non moins complémentaire, le secteur bancaire. Je ne pense pas être hyperbolique en disant que vous êtes l'un de nos plus mythiques grands patrons français.
Ah, mythique.
Est-ce que le qualificatif français a encore un sens dans l'expression grand patron français, si tant est d'ailleurs que l'expression est un sens.
Alors pardonnez-moi Henri Decker, je fais une parenthèse. Vous avez répondu tout à l'heure sur le fait de traverser la Manche dans la première partie. Vous nous disiez que vous alliez rejoindre le think tank de l'Institut.
Je lis ou j'écoute beaucoup de choses. C'est d'ailleurs en général pas des rumeurs désagréables, donc je ne fais rien pour expliquer le contraire. Mais ça ne veut pas dire je n'ai pas. On verra. Je pense que j'ai le droit de me donner un peu de temps avant de décider de façon exacte ce que je ferai. J'ai dit que je m'engagerai à fond dans l'Institut Montaigne. Je vais le faire. Ce sera mon occupation principale.
Qu'est-ce que ça veut dire grand patron français alors ?
Alors, d'abord, je ne sais pas s'il y a des grands ou des petits patrons. Je veux dire, patron, ça signifie diriger des équipes, essayer justement d'avoir dans son secteur une vision du monde et une vision de ce qu'on peut apporter à ceux qui vous font confiance. J'ai beaucoup d'admiration pour les patrons de boîtes moyennes et petites, parce qu'ils ont beaucoup moins de ressources autour d'eux que nous n'en avons, nous, les grands patrons. Alors, est-ce que c'est important d'être grand patron français ? Je pense que c'est important d'avoir une vision du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est sans racines et sans patriotisme. Ce pays est un pays formidable. Il a, au cours des générations, beaucoup apporté au monde. Nous n'avons aucune raison de le renier. En revanche, nous avons beaucoup de raisons de le bousculer quand il se racornit et se renferme sur lui-même.
Théophile Mégali, question pour Henri de Castres.
Alors, vous parliez justement de l'Union européenne et de sa nécessité de se reformer. Et donc, selon vous, le Brexit aura un impact de ce point de vue ?
Bien sûr que le Brexit aura un impact, parce qu'on ne peut pas ignorer un vote qui est un vote de rejet. Alors ensuite, il est beaucoup trop tôt pour savoir quelle sera la nature de l'impact. On entend des thèses qui sont absolument contradictoires. Ce qui montre d'ailleurs que rien n'est écrit ni décidé, c'est qu'il y a à peu près autant d'interprétations à la fois du délai et de la manière dont l'article 50 va être interprété qu'il y a de gens qui parlent dessus. Donc ça veut dire que ça va être un processus absolument classique de négociations très compliquées. Et on va revoir un certain nombre de déterminants classiques dans l'histoire européenne, c'est-à-dire une Grande-Bretagne qui va négocier avec le continent. Finalement, depuis probablement Henri VIII, les Anglais sont passés maîtres dans l'art de négocier avec le continent en essayant d'en extraire le meilleur pour eux-mêmes. Donc on verra. Moi, je pense que ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'il est nécessaire de retrouver ce que les anglo-saxons appellent un narratif pour expliquer à l'ensemble des populations européennes, à la fois en Angleterre et en Europe continentale, quelles sont les raisons que nous avons d'être ensemble aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des raisons extrêmement fortes que nous avons d'être ensemble.
On rappelle que l'article 50, c'est l'article 50 du traité de Lisbonne 2009 et qui permet à un État de mettre en place
les conditions
de sa sortie. Dernière question pour Henri de Castres, Grégoire Ross.
HEC, l'ENA, la direction du Trésor, vous avez un parcours typique de l'élite républicaine. mais néanmoins franco-français au regard de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Première chose, choisiriez-vous le même chemin aujourd'hui ? Et seconde chose complémentaire, quel conseil de formation académique et professionnelle donneriez-vous à un jeune Français débordant d'énergie et d'ambition pour son pays ?
Et le tout en 20 secondes.
D'accord. Bon, d'abord, vous avez oublié un truc qui pour moi était essentiel. J'ai été chef de section dans un régiment parachutiste. C'est ce qui m'a appris le plus sur le management et les hommes. Deuxième point, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que non, je ne referai pas la même chose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je crache dans le bassinet, mais je pense que le monde d'aujourd'hui est différent du monde d'il y a 40 ans. Vous avez, vous, étudiants, des choses formidables, notamment d'ailleurs quelque chose qui a été apporté par l'Europe, qui est le programme Erasmus. Ouvrez les yeux, voyez le monde. Ça ne signifie pas seulement réfléchir, hein. Réfléchissez aussi sur tout ce qui change autour de vous. L'économie du numérique, l'économie du digital, un monde nouveau est en train d'émerger. Aimez-le, allez dedans.
Merci Henri de Castres d'avoir répondu à nos questions, à leurs questions sur RTL. On se retrouve dans un instant avec un nouveau patron en direct d'Aix-en-Provence. À tout de suite.
Le journal inattendu en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Avec Marie Drucker sur RTL.
Pour ce rendez-vous annuel qui se tient tout le week-end avec des intervenants venus du monde entier, des journalistes, des grands patrons, des institutionnels, des personnalités et notre dernier invité. Bonjour Bertin Naoum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de MedTech. Vous avez 46 ans, c'est ça ?
46 ans, effectivement, le temps passe vite.
Vous êtes franco-béninois. Dès la fin de vos études, vous êtes dirigé vers l'ingénierie médicale. Votre passion, c'est la robotique chirurgicale, on peut dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait.
Vous concevez, vous développez et vous mettez sur le marché des robots aux noms gracieux comme Brigitte ou Rosa, et qui sont des outils de pointe pour la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire que votre technologie permet des interventions chirurgicales avec les chirurgiens de manière extrêmement pointue, encore plus précise, j'allais dire, que la main humaine. Face à vous, deux étudiants, Yann Randrian Harrison, 22 ans, étudiant à Centrale Marseille, passe en troisième année ingénieur, hein, donc, et qui compte se spécialiser dans le domaine de l'énergie, et Mathilde Godard, 23 ans, étudiante à l'ESSEC, qui passe en quatrième année à Saint-Cyr. C'est bien ça, qui a également fait en parallèle une licence d'anthropologie à Nanterre. Bonjour à tous les deux. Et ben c'est à vous. Tiens, qui commence ?
Je vais commencer.
Voilà, il est galant. Mathilde Godard, à vous.
Vous assistez le travail des chirurgiens. Est-ce que vous avez des projets pour assister le travail des infirmiers ?
Bertin Naoum. Alors, on rentre dans le vif du sujet.
Alors, effectivement, nos technologies...
Et de quelle manière ?
Et de quelle manière, tout à fait. Donc, nos technologies telles que le robot Rosa sont utilisées pour assister les chirurgiens dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau et notamment de la colonne vertébrale. C'est un espèce de GPS qui permet d'effectuer des gestes de façon extrêmement précise. Alors, notre contribution, elle est d'une façon générale avant tout à l'égard du patient. Et donc, dans la mesure où on contribue à rendre la chirurgie beaucoup plus efficace pour le patient, je dirais qu'on aide l'équipe médicale dans son ensemble. Le chirurgien, bien évidemment, mais également les infirmières, les brancardiers et pourquoi pas même les anesthésistes.
Comment vous travaillez ? Vous travaillez avec des ingénieurs, bien sûr, avec des médecins ?
Alors, MedTech, c'est une société qui est 100% française, qui regroupe à peu près 80 employés et qui regroupe, je dirais, des profils assez divers, bien évidemment des ingénieurs, mais également des commerciaux, des gens qui font du marketing. Pour ce qui est de la fonction médicale, en fait, nous travaillons en collaboration avec des équipes françaises et étrangères qui nous apportent l'expertise nécessaire pour valider nos technologies.
En deux mots, et après je laisse la parole à Yann, comment vous vous situez ? Vous avez entendu Henri de Castres, PDG du numéro 2 mondial de l'assurance. Vous avez entendu juste avant Patrick Pouyanné, le président directeur général du groupe pétrolier Total. Quand on est un chef d'entreprise, d'une entreprise qui fonctionne bien, qu'on a seulement 80 salariés, comment vous vous situez par rapport à ces grands patrons-là et dans le contexte actuel ?
Je dirais qu'on fait partie de la même grande famille, mais en même temps, on vit bien évidemment des réalités complètement différentes. La réalité d'une start-up telle que MedTech, c'est de proposer des technologies qui visent à aborder, je dirais, certains secteurs de façon complètement différente. Dans notre secteur, on s'appuie sur la révolution que vit actuellement le secteur médical et le secteur chirurgical, et qui est la conséquence d'une attente extrêmement importante des patients pour de hauts niveaux de qualité de soins.
Yann Randrian Harrison, question.
Oui, bonjour, j'aimerais revenir sur votre expérience en école d'ingénieur. En France, on constate que dans certaines écoles, en particulier à l'école centrale Marseille où je suis mes études, on met en place de nombreux dispositifs d'entrepreneuriat pour inciter les étudiants à créer leur entreprise Je pense notamment au processus associatif de junior entreprise. Est-ce que vous pensez qu'en sortant d'une école, lorsqu'on est jeune, est-ce que c'est le bon moment pour créer son entreprise? Est-ce que vous inciteriez les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui à se lancer dans le paysage économique français en créant leurs entreprises?
Vous avez compris qu'on attend une réponse bien précise, un conseil en fait, Bertrand Naoum.
Alors un conseil, je vais essayer très humblement. Il n'y a pas de bon moment pour créer une entreprise. En fait, tous les moments sont bons. À la fin des études, même avant la fin des études, on a des exemples assez étonnants d'entrepreneurs qui ont créé des sociétés extrêmement florissantes avant même d'avoir terminé leurs études. Donc tout est possible. Moi, ce que j'observe d'une façon générale, c'est qu'il y a un mouvement assez intéressant dans le milieu universitaire, dans le milieu ingénieur également, d'un intérêt croissant pour la création d'entreprises, pour le monde de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement positif et extrêmement encourageant.
Et dans la dernière question, dans le contexte actuel, on a évoqué le Brexit. Je posais la question à ceux qui vous ont précédé à ce micro sur RTL, s'ils envisageaient des restructurations, parce qu'évidemment, ils doivent faire face aux inquiétudes qu'a généré le Brexit, notamment la montée des nationalismes en Europe. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce contexte ou pas du tout ?
Pas vraiment. Nous, c'est vrai qu'on marche, on travaille sur des marchés internationaux et je dirais que notre moteur, ce qui nous fait avancer, c'est notre capacité à proposer de la valeur pour les patients, de proposer une façon complètement différente de traiter les patients et leurs problèmes. Et je crois que c'est surtout l'espoir qui régit le développement de la société.
Merci beaucoup Bertrand Naoum d'être venu nous parler de ce métier que vous faites. Je ne sais pas si le grand public qui nous écoute, ceux qui nous écoutent sur RTL savaient voilà, qu'il y avait cette technologie extrêmement précise et pointue qui assiste les médecins et peut-être bientôt les infirmières, les brancardiers et les personnels de santé. Merci à tous. C'est mon dernier journal inattendu. Je ne vais pas faire long car ce ne sont pas des adieux. RTL reste ma famille et ce n'est qu'un au revoir. Néanmoins, un grand merci à Christopher Baldelli, Jacques Esnoux, Catherine Mangin, Jean-Philippe Baye, Jacques Expert. Merci à tous pour votre confiance pendant ces 5 merveilleuses années passées à la rédaction et au programme. Il fait bon vivre et travailler dans la première radio de France. Merci à Lauriane Dervaux, journaliste fidèle qui m'accompagne. On a vécu ensemble des aventures formidables et ce n'est pas fini. Merci pour ton soutien. Merci à Philippe Robuchon et à toute cette rédaction géniale, radio et web. Merci à Florence James, grande ordonnatrice des délocalisations ici et ailleurs et pour la fête de jeudi dernier. Merci à notre réalisateur chéri, le talentueux Pascal Choisy, toutes celles et ceux qui sont autour de lui, Arnaud Lemorillon, qui est avec nous aujourd'hui, Lucas Dindeleu, Jean Derieux, Thibault Renoir et Rebecca Leroy, qui est avec nous. Bon vent à notre Bernard Poirette National, qui vous présentera le journal inattendu l'année prochaine. Et enfin, et surtout, un grand merci à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Merci pour votre fidélité. Avec vous aussi, j'ai passé 5 années merveilleuses. Je vous embrasse. Et pour la dernière fois, je vous laisse en compagnie de Jade et Jean-Sébastien Petit-Demange pour la drôle de semaine dans un instant sur RTL, juste après un détour par la grande boucle.